groupe musical de musiciens suédois, mais non, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est une église ici sur Annecy, juste à côté du stade. Alors, si vous avez l'occasion, c'est près des fins. Voilà, je ne dis pas plus sur ce que je fais. Si vous avez des questions après, on peut toujours regarder ça. Je crois que c'est important qu'on soit connu pour les choses positives, les choses qu'on est pour, plus que les choses qu'on est contre. Mais je constate que peut-être c'est une faiblesse, une lacune dans mon ministère. J'ai beaucoup parlé des choses qu'il faut croire, qu'il faut faire. Et à mon avis, je n'ai pas assez parlé des choses qu'il ne faut pas croire et qu'il ne faut pas faire. En tout cas, notre sujet « résister », c'est « exister », m'a fait penser à beaucoup de choses que nous devons voir dans notre vie, peut-être pour résister justement. Parce que quand quelqu'un accepte Dieu par la foi, il doit résister à autre chose, automatiquement. Il doit, s'il dit oui à Dieu, il dit non à autre chose, c'est sûr. Sinon, sa foi ne peut pas exister. Parce que même la porte, à ce moment-là, s'ouvre à tout compromis. Et Dieu lui-même n'accepte pas un cœur partagé. Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Personnellement, je n'ai pas trop de difficultés à dire oui à Dieu, par exemple, au salut. C'est quelque chose qu'on voudrait. On n'a pas trop le problème à dire oui à cette nouvelle vie que Dieu nous offre. Mais par contre, résister aux pressions de ce monde, ou de la chair, ou du diable, des fois c'est autre chose, n'est-ce pas? L'exemple dont j'ai pensé, c'est Lot, le neveu d'Abraham, qui un jour a dit oui à Dieu et est parti avec son oncle Abraham, par la foi. Mais il n'a jamais pu dire non et résister aux choses de ce monde. Et en fait, son témoignage a cessé d'exister. Et à la fin de sa vie, il termine caché dans une grotte dans le débauche. Et c'est triste, cette histoire. C'est pas que l'Ancien Testament où on trouve ces choses. Au Nouveau Testament, l'apôtre Paul a écrit à Timothée, et dans 2 Timothée chapitre 4 et verset 10, il cite les personnes, les serviteurs qui travaillaient avec lui. Et il parle de Démas, et il dit « Démas m'a abandonné parce qu'il a aimé le monde présent, et il est parti. » Encore une personne, un serviteur, une aide pour l'apôtre Paul, qui n'a pas pu résister, qui n'a pas pu dire non à certaines choses, et il est parti. Ou dans le livre classique, peut-être vous connaissez le livre « Voyage du pèlerin », que j'aime beaucoup. En lisant ce livre, vous voyez beaucoup de monde qui se joignait de temps en temps à Christian, le pèlerin en route vers la cité céleste. Et pourtant, la plupart l'ont quitté parce qu'ils n'ont pas pu résister à plusieurs choses. Je voudrais qu'on passe un moment pour regarder l'histoire d'un des plus grands leaders de tous les temps. Il s'appelle Moïse. Et dans les premiers chapitres du livre d'Exode, nous avons cette histoire de Moïse. Nous n'avons pas le temps de lire toute cette histoire et de faire par tous les détails, mais j'ai choisi de prendre le résumé de cette histoire qui se trouve dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11 et verset 23 jusqu'à 26. Parce que voici une foi qui choisit de résister. Et vous allez voir comment une foi résistante a sauvé pas seulement Moïse, mais aussi toute une nation existe et existait grâce à Moïse et ses choix de résister. Alors je lis ces versets, Hébreux 11, à partir de verset 23. Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon aimons mieux être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Un résumé intéressant de la vie de Moïse. Et nous voyons, même au verset 23 où on a commencé, que sa foi commençait avec les parents. Et cette idée de résister commençait avec les parents, qui ont résisté aux lois meurtrières déclarées par le pharaon. Moïse a eu le bonheur d'avoir justement les parents croyants. Ça, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mettre leur enfant à l'abri des autorités était certainement un acte de foi, car à ce moment-là, ils risquaient leur vie en Égypte. Vous avez toute cette histoire, l'Exode, le chapitre 2, les 10 premiers versets qu'on ne va pas lire, mais si vous voulez lire plus tard l'histoire des parents de Moïse. Les parents ne peuvent pas transmettre leur foi à leurs enfants comme on transmet nos caractéristiques génétiques. Ça ne marche pas de cette façon. Par contre, les parents peuvent créer à la maison une atmosphère de foi. Ils peuvent être des exemples pour leurs enfants. Et je dirais même que pour un enfant, le foyer familial devrait être la première école de la foi pour lui dans sa vie. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt les versets 24 à 26 et l'histoire de Moïse, où on trouve justement le mot-clé « résister ». Peut-être vous avez « refusé », dans d'autres traductions c'est « refuser », verset 24. Et je vous pose la question, à quoi Moïse a-t-il résisté? Et dans le verset 24, nous voyons qu'il a résisté à une position élevée en Égypte. Plus tard, dans le Nouveau Testament, Actes, au chapitre 7, nous avons ce message d'Étienne, le jour où il était lapidé, et ce long message, il parle de Moïse dans ce message, et il dit que Moïse était un homme instruit dans toute la science d'Égypte, et qu'il devint un homme dont la parole et les actions avait des effets remarquables. J'aime ça. Le fait d'être appelé fils adopté de la princesse a donné à Moïse des avantages, des grands avantages. En plus, je dirais que Moïse avait déjà des capacités. Il était un enfant doué et comblé. Mais si Moïse était resté dans la vie au palais, il aurait pu avoir beaucoup de choses, mais il n'aurait jamais été Moïse, l'homme de Dieu, libérateur du peuple, n'est-ce pas? Mais attention, parce qu'on a tendance à lire quelque chose comme ça et de faire un constat qui n'est pas toujours juste. Parce que j'ai déjà entendu des gens qui font de cette histoire un exemple pour tout le monde, une règle dans la vie. Il ne faut pas se mélanger avec les choses du gouvernement, politique, etc. Et pourtant, Dieu a placé Joseph au gouvernement, au palais, justement pour la même raison, pour sauver son peuple. On a l'histoire d'Esther, pareil. L'histoire de Daniel. Donc, c'est dangereux de faire une règle pour tous, parce que Dieu est un Dieu de l'individu. Et il a un plan individuel pour chacun de nous. Ce qui est important alors, c'est d'agir par la foi et d'avoir ce discernement pour savoir quand il faut dire oui et quand il faut résister et dire non. Et ce n'est pas toujours simple. Attention, la foi ne cherche pas les alternatives. La foi agit selon les assurances. Et Moïse avait cette assurance que Dieu voulait qu'il s'identifie avec son peuple. Pour les gens autour de Moïse, ils voyaient son choix comme une folie. Avec ce seul choix, vous voyez ce qui se passe pour Moïse? Il est passé de Moïse, le prince d'Égypte, à Moïse, le serviteur. Il y a un prix à payer pour résister des fois. Mais pas seulement il a résisté, verset 24, à la position élevée en Égypte, mais il a aussi résisté, verset 25, au plaisir d'Égypte. Parce que ce choix lui a offert une vie de souffrance et de tristesse. La vie de Moïse aurait pu être beaucoup plus aisée, plus facile, avec plus de confort, s'il avait choisi de rester au palais. Sauf encore pour une chose. Rester au palais aurait été en dehors de ce que Dieu voulait pour lui, donc un péché pour Moïse. Je pense qu'il ne faut pas interpréter ce verset 25 où c'est marqué « jouir d'une vie de péché comme de gros péchés sexuels ou autres ». Certainement, il y avait beaucoup de possibilités pour ces gros péchés en Égypte, et surtout quelqu'un d'influence, il pourrait en avoir autant qu'il voulait, ça c'est sûr. Mais pour Moïse, je pense, dans ce contexte, la vie de péché serait plutôt le confort et la vie aisée au palais comparé à l'affliction et la souffrance de son peuple. Parce que Dieu voulait qu'il s'identifie avec eux. Et je pense, si Moïse est resté prince, officier égyptien, il aurait pu faire de grandes choses, peut-être construire les villes ou je ne sais pas quoi. Mais ces choses sont des choses qui ne durent pas. Tandis que, au service du roi des rois, son service restera pour l'éternité. Chacun doit se poser la question alors, est-ce que je vais jouir de ma vie à ma façon? Ou est-ce que je vais investir ma vie dans la volonté de Dieu au service du Seigneur des Seigneurs? Donc, il a résisté. Il a résisté contre la position offerte. Il a résisté au plaisir d'Égypte. Mais il a aussi, verset 26, résisté aux promesses offertes par le pays d'Égypte. Et c'est là où je suis en train de voir comment ça marche. Et je vois que la vie est construite pour chacun de nous à partir de notre comportement. Notre façon de vivre. Et notre comportement dépend de nos choix. Moïse était un homme de bonne conduite parce qu'il a fait de bons choix. Mais nos choix sont dictés par nos valeurs. On choisit selon ce qui est important pour nous. Et c'est ce que nous voyons avec la vie de Moïse. Un Égyptien à cette époque, sans Dieu dans sa vie, qui regarde Moïse, dirait que ce prince a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il voulait. Prestige, autorité, richesse, confort, un avenir de luxe. C'est super, n'est-ce pas? Mais quand Moïse regarde ces mêmes choses, il ne voit pas de la même façon. Il a vu que ces choses étaient du bon marché. Et il ne voulait ni les plaisirs d'Égypte, ni les trésors d'Égypte. Parce qu'il avait quelque chose bien meilleur. Le texte nous dit qu'il avait en vue une récompense à venir. Et mes amis, ça c'est la foi. De vivre ici avec le choix basé sur ce que nous aurons un jour auprès du Seigneur. Le mot même dans le texte « estimer » signifie « évaluer et considérer selon les vraies valeurs ». C'est-à-dire le peuple de Dieu dans la souffrance, était plus important aux yeux de Moïse. Et il a pu choisir selon les vraies valeurs, parce qu'il avait les yeux fixés sur la récompense à venir, et il vivait par la foi. Qui me fait dire, pour rester aux choses et pour résister autour des choses autour de nous, des choses qui peuvent nous détourner de Dieu. Il faut garder les yeux fixés sur le but. Ça me fait penser à un coureur de 100 mètres, par exemple. Moi, j'ai fait autrefois le 100 mètres et. Et je me souviens toujours l'entraîneur qui disait « Ne regardez ni à droite ni à gauche, mais là-devant !» Au but. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit en Hébreux 12. « Ayons les regards fixés sur le chef et consommateur de notre foi, sur Jésus. » Les choix de Moïse étaient basés sur les valeurs. Ces valeurs étaient basées sur la foi. Et vous voyez cette récompense à venir. Et puisqu'il avait placé sa confiance en Dieu, alors il s'est laissé guider dans la vie par les choses les meilleures. Et souvent, ce n'est pas vu comme les choses les meilleures. Donc, je résume. La vie est construite, ou la vie se construit, à partir de notre comportement. C'est comme ça qu'on est connu. Et notre comportement dépend de nos choix. Nos choix sont dictés par nos valeurs. Et nos valeurs sont basées sur la foi. Et la foi vient d'où ? Romains 10, verset 17. La foi vient de la parole de Dieu. Conclusion alors. Nos valeurs doivent être fondées sur la Bible. C'est là où ça commence. Et c'est un cercle. On commence avec la Bible, et quand vous lisez la Bible, vous découvrez que ce qui est important aux yeux du monde n'est pas toujours important pour Dieu. Car le monde est souvent concentré sur les prix et non sur les valeurs. Et les étiquettes de prix du monde sont toutes confuses, n'est-ce pas? L'homme mesure aujourd'hui la richesse par ce qu'il possède. Mais Jésus a bien dit que la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. La foi de Moïse était un choix. Un choix de résister à la vie d'Égypte. Il résistait à une vie de position et autorité. Il résistait au plaisir offert par le pays et le confort. Il résistait aux promesses qu'il pouvait avoir en Égypte. Pour pouvoir faire ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, et avoir une existence qui apporte gloire à Dieu. Je trouve que c'est beau. Et si vous lisez cette histoire, vous allez voir que Moïse n'a jamais regretté son choix. Tandis que souvent le peuple d'Israël voulait retourner en Égypte, on n'a aucun signe que Moïse avait ce désir. Par la foi, il résistait à la vie d'Égypte. Il a enterré cette vie et il est parti par la foi, les yeux fixés sur la récompense à venir. Une vision plus grande que tout ce que l'Égypte pouvait l'offrir. Une récompense éternelle. Mais c'est difficile des fois à garder les yeux fixés sur ce que nous aurons auprès de Dieu quand il y a tout ça autour de nous. Et je vois beaucoup de monde qui soit détourné par les choses parce qu'ils ne savent pas résister pour exister. Alors quand nos valeurs sont basées sur la foi, elles ne varient pas selon les choses changeantes ou courantes de ce monde. Moïse avait une existence avec un bon comportement parce qu'il était un homme qui faisait de bons choix. Son comportement était construit sur les choix, ses choix sur les bonnes valeurs, les valeurs sur sa foi. Et sa foi était construite sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi Moïse était un grand leader. La foi qui se donne à Dieu doit aussi résister aux valeurs de ce monde. Le rang social, le prestige, la puissance, la richesse, le confort et l'absence de ceci. Ces choses ne sont pas mauvaises. Mais si ça entre cette relation que nous avons avec Dieu, pour nous empêcher à faire ce que Dieu veut, alors il faut résister. Pour avoir une vie investie dans une conduite à la gloire de Dieu. Voilà. Alors, je pense que ce texte nous explique un peu ce que ça veut dire résister pour exister, mais peut-être maintenant vous avez des questions sur ce texte ou autre, et nous aimerions essayer, pas seulement moi, mais je vous laisse répondre aussi.
tu joues parfaitement le jeu, c'est-à-dire que c'est tout à fait l'étude biblique et bien dans le sujet, résister pour exister.
Je peux te demander d'être ça.
Voilà, alors donc, pour continuer à bien respecter le jeu, je vous demande de poser des questions, mais je vous donnerai le micro pour que, si on n'entend pas la question, on ne comprend pas la réponse. Voilà, donc qui veut poser une question ?
En attendant que les questions arrivent, c'est toujours comme ça après le... Après le conférencier, il y a un laps de temps, il dit ce que j'y fais, j'attends que le voisin ou la voisine y aille, je vais vous raconter une histoire à laquelle j'ai pensé pendant que Steve parlait et qui va confirmer ce qu'il a dit. Un jour, un roi avait un seul fils et il a dit « Mon fils, tu dois prendre la succession du royaume, mais tu n'es pas digne. » Ce fils était un garçon qui menait la grande vie, il buvait de l'alcool, il allait chez les prostituées, il passait la moitié de ses nuits à faire ce qu'on dirait aujourd'hui la fête, et il n'était pas digne de remplacer le roi. Et le roi a dit, il a pris ses serviteurs, il a appelé les serviteurs, je vois qu'il y en a dans l'assemblée qui connaissent l'histoire, non, c'est ça ? Non ? Et il a dit aux serviteurs, vous allez prendre votre sabre, vous allez suivre mon fils. Il va traverser la ville dans tous les bas quartiers, là où il va, chez les prostituées, consommer de la drogue, de l'alcool, vous allez le suivre. Et je vais parler à mon fils. Alors il a expliqué au fils, il a dit voilà, tu vas prendre une coupe d'huile, je vais remplir une coupe d'huile. Et tu vas traverser la ville, tu vas être suivi de mes serviteurs, et si tu renverses une goutte d'huile, on te tranche la tête. Si je dis ça à l'église, tout le monde va partir. Hein. Bien, mais c'est l'histoire qui est intéressante quand même. Et qui montre que ce qu'a dit notre frère, c'est que nos choix guident notre vie. Alors ce garçon s'est appliqué avec sa coupe d'huile, et il a marché, il est monté, il est descendu les escaliers, il a traversé les vieux quartiers, et il est rentré à la maison avec les serviteurs. Et le roi a dit, est-ce qu'il a rempli le contrat ? Il dit oui, il a renversé aucune goutte d'huile. Très bien. Le fils a posé la coupe, et le roi lui a dit, alors mon fils, bien, je vois que tu es digne de prendre ma succession. Qu'est-ce que tu as vu quand tu as traversé ? Est-ce que tu as entendu ? Tu as vu les prostituées ? Non, non. Ah bon ? Tu as vu les gens qui fumaient de la drogue ? Non, 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 je n'ai pas vu, père, je n'ai rien vu. Ah bon ? Et pourquoi ? Il dit, j'avais les yeux fixés sur la coupe pour qu'elle ne renverse pas. Donc voyez-vous que si nous n'avons pas d'objectif dans la vie, nous sommes livrés à toutes sortes de passions. Merci beaucoup.
Merci André. Question ? Alors je vais me permettre d'en poser une alors. Ouais, vous me laissez un peu de parole aujourd'hui. Je l'occupe, je plaisante, hein. J'occupe bien la parole. Steve, comment articuler avec ton histoire de Moïse, enfin notre histoire de Moïse, les tentations auxquelles Jésus est soumis au début de son ministère, avant de commencer son ministère ? Comment on peut articuler ça, puisque lui aussi il quitte, il aurait pu avoir des fonctions importantes, hein, prince du monde, et est-ce qu'on peut faire un parallèle ?
Ben, je pense tout à fait. Jésus, il a résisté cet usage individuel, indépendant de Dieu. Il aurait pu changer les pierres en pain. Il aurait pu sauter du haut du temple sans se faire mal. Il aurait pu faire ces choses. C'était Dieu. Mais il savait que ce n'est pas en agissant indépendant de ce que Dieu veut, c'est toujours en vivant selon ce que Dieu demande de nous. Et il est un grand exemple dans ce sens, et je crois que c'est pareil pour Moïse. Il aurait pu tout avoir, mais de vivre cette vie à part de ce que Dieu lui demande à faire sera un péché. Et donc je vois que Jésus est vraiment la suite de cette histoire.
Oui. Décidément, je ne voulais pas que la parole... parole soit monopolisée que par les pasteurs, mais il y a un complément qui vient sur mon cœur, parce que j'ai travaillé longtemps cette question qui a été posée, et j'y ai beaucoup réfléchi, et je me suis rendu compte que dans nos moments de difficulté, dans nos moments peut-être de lamentation, de larmes, de soucis, de fardeaux, de choses qu'on a apportées qui nous dépassent, si on ne remet pas au Seigneur, on est perdu. Eh bien, même dans ces moments-là, il faut être très vigilant, parce que le diable, même dans la prière, peut nous induire en erreur pour nous détourner de l'objectif de Dieu. Et c'est précisément ce que le diable voulait faire avec Jésus. On lui dit, mais tu es le Fils de Dieu. Mais pourquoi ne demandes-tu pas que ces pierres se transforment en pain? Mais Jésus avait une vision parfaite de ce que le Père voulait. Et il ne s'est pas laissé tenter, même en ayant la parole de Dieu dans la bouche. Merci.
Merci André. Oui, je précise pour ceux qui ne le connaissent pas, il n'y en a peut-être pas beaucoup, que André est pasteur de l'église évangélique du Cèdre à Mété. Il fait partie de notre pastorale de la PEA. Pas d'autres questions? Ah, ben voilà. J'en ai un en réserve, vous inquiétez pas.
Je reviens à l'histoire de Moïse. Vous avez parlé tout à l'heure de la récompense. Ah pardon, ça va comme ça? Oui, vous avez parlé tout à l'heure de la récompense de Moïse qui avait choisi de renoncer au luxe qui pouvait l'attendre pour avoir la récompense. Ça me choque un petit peu, et il y a beaucoup de non-croyants qui nous reprochent et nous disent « Oui, en somme, vous avez la foi parce que vous espérez une récompense. » Alors, je voudrais vous expliquer, s'il vous plaît, qu'on peut avoir autre chose sans espérer une récompense, rien que parce qu'on a la foi. Je ne sais pas comment...
J'ai la moitié de ma question. En fait, je ne pense pas que Moïse a résisté contre la vie proposée par l'Égypte pour avoir la récompense. Mais il voyait la récompense que Dieu avait pour lui de vivre fidèlement une vie pour le Seigneur, en faisant ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et il avait, comme j'ai dit, envie sur les assurances, il avait l'assurance dans son cœur que pour lui, ce qui est important, c'était de s'identifier avec le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et donc, parce qu'il l'a fait, il voyait quelque chose, et c'est ça la foi, c'est de vivre... par les choix, en sachant que une obéissance à Dieu nous portera un jour quelque chose. Alors, si on n'a pas une certaine connaissance et foi en Dieu, évidemment, ça semble un peu pas très nécessaire. On peut vivre notre vie ici sans chercher quelque chose de plus tard. Mais en tout cas, la Bible parle beaucoup d'une vie autre. Après la mort, une vie au ciel, pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Et moi j'y crois. Et je crois que Moïse vivait avec ça en tête, et pas à vivre pour ce qu'il pourrait avoir ici sur cette terre, même si c'était les bonnes choses. Moi je ne dis pas que c'était les mauvaises choses nécessairement. Mais il vivait avec une autre idée, que la vie est mieux que ce qu'il pourrait avoir ici. Et ça c'est la récompense éternelle. Et peut-être André, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter.
Moi, je remplace plutôt récompense par espérance.
Alors, la récompense ne se mesure pas forcément au gain que l'on va recevoir. Je parlais tout à l'heure avec madame qui est assise en face de mon épouse. Est-ce que ce n'est pas une récompense lorsque vous donnez de votre temps? Vous donnez de votre énergie à des personnes qui sont dans la panade, qui ont des problèmes par-dessus la tête. Est-ce que ce n'est pas une récompense de sortir quelqu'un de ses problèmes? Et je pense que la vision de Moïse était celle-là, de sortir son peuple, comme l'a dit le frère. Et ça, c'est une récompense.
C'est le mot qu'on n'aime pas.
Oui.
C'est ce mot récompense, ça fait enfant. Vous aurez un bonbon si vous êtes sage. Oui, le mot récompense est très gênant. J'aime bien l'espérance. C'est ça, finalement. Ou bien, quand j'ai la vie, ailleurs,
enregistré là. Bon, c'est le mot récompense qui est gênant. Le mot espérance. Et puis, on veut continuer de vivre, on a envie de bien vivre. Mais bien vivre, c'est vivre honnêtement, c'est pas forcément bien vivre dans le luxe, etc. Je sais pas, vivre agréablement, je sais pas, à l'heure actuelle, beaucoup de mots sont déformés par leur utilisation à tort et à travers. C'est en ça que le mot récompense, ça fait un peu gamin. Je sais pas, c'est un point de vue. Hein.
Merci, Magali.
Oui, bonjour, Steve. Moi, j'ai le sentiment que c'est aussi nous appeler à vivre le changement aujourd'hui, c'est-à-dire être responsable d'un devenir où l'on fait nos 10% et où le Seigneur fait les 90%. Et c'est ce chemin d'éternité où on est appelé à changer ce qu'on peut changer, comme saint Augustin nous dit. Essayez donc de connaître la différence. Changer ce que l'on peut, accepter ce que l'on ne peut pas et avoir conscience de la différence.
Il y a quand même plusieurs textes de la Bible qui parlent d'une récompense. Et donc, ce n'est pas... Oui, ouais. Tout à fait. C'est ça, exactement.
Alors, avant de poser une autre question, je rebondis sur ce que j'ai entendu. Notre ami a dit... Nous, on fait 10% et Dieu fait les 90% qui restent. Je ne suis pas d'accord du tout avec elle. Et ceux qui me connaissent savent que quand gentiment des amis qui me soutiennent me disent c'est formidable, etc., je dis, vous savez, Dieu fait tout et moi je fais le reste. Voilà. Ma proportion à moi, elle est plutôt comme ça. Mais il a quand même besoin de nous. Nous ne sommes pas indispensables, hein. Si nous refusons, enfin c'est mon idée, si nous refusons ce qu'il nous propose, il trouvera quelqu'un d'autre pour le faire, mais nous aurons perdu une belle occasion de faire quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Ce qui m'interpelle et qui m'a toujours interpellé, je veux dire, c'est la notion de discernement en adéquation avec ses choix par rapport à Dieu. Or cela, il me semble, est une notion qui n'est que, en fait, pour nous, qu'humaine. Comment peut-on avoir cette descente de l'Esprit-Saint, de Dieu, au niveau de son discernement soi-même, en tant que pauvre petite statuette sur terre? Et surtout, alors que l'on désire faire des choix en fonction des valeurs engendrées par nos parents, notre famille, etc., que sais-je, il nous arrive souvent, en tant qu'être humain, de manquer précisément de ce discernement, même si on prie, et en fait de faire des mauvais choix qui souvent se transforment en une véritable catastrophe de la vie entière. Cela peut arriver, je ne dis pas qu'on ne s'en remet pas. Quant à la notion de récompense, je pense que cette notion était un peu galvaudée dans notre langage actuel, parce que espérance n'est pas synonyme de récompense. Et la récompense, il faut la concevoir, à mon sens, dans l'au-delà de Dieu, quoi, si je puis dire.
Je pense que vous avez raison de dire que c'est basé sur le discernement et c'est ça qui n'est pas toujours évident. C'est pour ça que j'ai fait tout le tour. Le discernement est nécessaire et ce discernement est construit sur nos valeurs par la foi que nous avons en Dieu, qu'il va prendre soin de nous et qu'il réserve quelque chose pour nous dans l'avenir, sinon c'est pas la peine. Et cette foi basée sur la Bible. Et je pense que c'est là où vient notre discernement pour les choses. Et c'est pas évident, c'est vrai. On a des amis, on a... Pourquoi pourquoi Dieu a donné l'Église, je pense, c'est pour avoir justement une aide à discerner et appliquer ce qui est écrit dans la Bible pour pouvoir faire finalement des bons choix. Parce que c'est vrai, les choix peuvent vraiment détruire beaucoup de choses. Et pourtant, on a aussi un Dieu qui pardonne, qui renouvelle, qui nous donne une deuxième chance. Et donc, je pense que c'est jamais fini avec Dieu. Il ouvre toujours la porte pour encore autre bon choix, avec de bons discernements. Donc, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance.
Oui, merci Steve. C'est exactement la question que je voulais te poser, parce que tu as choisi deux exemples assez exceptionnels, pour ne pas dire tout à fait exceptionnels, Moïse et Jésus. On a l'impression, quand on lit les Écritures, que ce sont des gens qui ne se sont jamais trompés. Or, Dieu est le contraire de quelqu'un qui, d'abord, nous punirait à notre première incartade, et puis surtout, il nous appelle à agir. La manière de ne faire aucune erreur, ça serait de ne jamais choisir. Et c'est pas ce qu'on nous demande. Alors justement, la question que je voulais poser à Steve, parce qu'il a peur de rien, c'est, on a quand même dans les évangiles des exemples de disciples, donc pas n'importe qui ont eu manqué de discernement. Vous avez Pierre, hein, c'est pas n'importe qui Pierre, qui dit, mais moi Seigneur, jamais je ne t'abandonnerai et tout, et qu'il renie trois fois. Et pourtant il finira martyr. Vous avez les autres disciples, dont on ne nous dit pas tous les noms, qui disent, mais Seigneur, là où tu iras, nous irons aussi. Et Jésus leur dit, vous ne pourrez pas, mais vous viendrez un jour. Ils se sauvent tous le jour de la crucifixion. Il n'y a que les femmes qui restent. Et pourtant, tous ces disciples qui se sont volés, il y en a même un qui avait lâché son vêtement, il est parti tout nu, tous ces disciples sont morts martyrs. C'est-à-dire qu'ils ont suivi leur foi jusqu'au bout. Alors, Steve ?
Il y avait Jean quand même.
Tous ces exemples montrent bien que ce n'est pas seulement faire de bons choix. Parce que je crois que Pierre a fait un bon choix. Il a dit, je te suis jusqu'au bout. Mais il n'a pas su faire. Et il est tombé. Il avait quand même le désir et il a fait un bon choix, mais même avec le bon choix, on n'arrive pas toujours à aller où on veut aller. Et Pierre est l'exemple. On a aussi l'exemple de Moïse. Au début, quand il voulait s'identifier avec le peuple, il a tué un Égyptien. Il voulait bien faire, mais il a fait par une mauvaise manière. Une mauvaise manière. Ça fait que ce n'est pas assez juste d'avoir des bonnes valeurs et faire de bons choix, mais il faut aussi la grâce de Dieu pour nous guider pas à pas pour accomplir toutes ces choses. Et c'est pas toujours évident, c'est vrai. Mais je crois que si on a vraiment un cœur pour faire ce que Dieu veut, même on a l'exemple de Pierre qui est tombé, et pourtant, à la fin, il a beaucoup servi Jésus. Et Jésus a ouvert la porte qu'il revient dans son équipe. C'est une histoire extraordinaire. Comment, par la grâce, Jésus a pardonné Pierre et il a redonné une suite pour sa vie. Donc, c'est vrai, c'est tout à fait ça. On a des exemples partout dans la Bible de ceux qui ont bien commencé, mais en voulant faire du bien, ils ont fait aussi du mal. Mais on a un Dieu qui nous aide, même dans les moments-là, pour continuer.
Alors... Oui, en sachant qu'on a un Dieu qui nous pardonne, on pourrait dire peut-être que résister, c'est non seulement résister aux tentations qui nous éloigneraient de ce que Dieu veut pour nous, mais si on tombe, résister à l'idée que ça y est, c'est fini, alors puisqu'on y est, on va y rester. Il faut résister à cette tentation et dire non, tout n'est pas perdu, je vais me ressaisir et je vais retourner dans le chemin qu'on a prévu pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Je pense que nous manquons souvent de mémoire et que nous avons dans la vie des moments qui sont Tout va bien, tout roule, on est d'accord, on est béni par la parole et on oublie les promesses de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que chacune des promesses sous-entend une condition. Et la Bible nous le dit, si, Moïse le dit, de la part de Dieu, si mon peuple s'humilie, si vous restez fidèles, si vous obéissez à mes commandements. Donc, ce sont des choix qu'il faut faire pour notre vie. Et je crois que nous avons tendance à oublier les promesses que Dieu nous a faites à travers la parole de Dieu. C'est pour ça que Steve nous a incité à lire la Bible. Et je crois que c'est là que nous trouvons la force et les promesses. Et il me revenu à la mémoire qu'une phrase que quelqu'un a dite. Il a dit « Ne rejetez jamais dans les ténèbres ». C'est-à-dire les ténèbres, c'est les moments où nous sommes découragés. Les moments où nous sommes dans l'affliction, peut-être nous sommes dans les larmes pour une situation difficile, etc. Et cela nous arrive à tous. Jésus nous a dit, vous ne manquerez de rien, hein. Même d'affliction, hein. Chacun passe par là. Donc il dit, ne rejetez jamais dans les ténèbres ce que vous avez reçu dans la lumière. Et je crois que la parole de Dieu, la Bible, est une lumière pour nous, aussi bien pour le discernement que pour les choix que nous faisons pour notre vie. C'est une lumière, c'est un moment béni dans lequel nous recevons les promesses de Dieu. Et dans les moments difficiles, nous avons tous tendance à les oublier, et c'est ce qu'il ne faut pas faire, justement. Et c'est ce qui nous permettra de résister.
Oui, merci André. Encore une intervention? Eh bien, écoutez, il nous reste à remercier Steve, qui a animé à l'aise ce difficile sujet, et d'avoir choisi Moïse. Merci à toi et la lettre aux Hébreux. Voilà, alors, la semaine thématique se continue. Demain, dernière étude biblique avec le pasteur Anne Faisandier, pasteur de l'Église réformée de France à Lyon, qui parlera toujours du même sujet, mais cette fois-ci sur Apocalypse. Et puis, enfin, le culte dimanche avec le pasteur Bernard Ordorf. Alors, c'est à 10h. Souvenez-vous qu'on change l'heure dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà. Donc, pensez à ça. L'exposition, voilà, on avance notre montre d'une heure. Hein. On dormira une heure de moins. Alors, l'exposition est toujours possible en bas. Le pasteur Steve Niels a accepté que son intervention soit enregistrée. Elle sera donc mise sur le site de l'Église réformée, erf-annecy.org, mais pas avant la deuxième moitié de la semaine prochaine. Il y a un petit problème de logiciel pour transformer ce qui est enregistré et le mettre sur le site. Mais ça sera sur le site. Voilà. Donc, je vous rappelle la visite guidée, commentée par Jean-Pierre Michaud de l'exposition La guerre des Camisards demain à 11h15. Et puis, je vous souhaite un bon dessert, un bon café et un bon retour à vos activités. Merci.
Vous voyez, je Thank you. Thank you. Je suis loin.